Jiří Beňovský, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe, collaborateur scientifique à l'Université de Genève. Vous êtes l'auteur de très nombreux articles et ouvrages académiques en métaphysique, philosophie de l'esprit, esthétique et méta-ontologie. Alors dit comme ça, c'est vrai, ça peut faire peur, mais je rassure celles et ceux qui nous suivent ce soir, comme Hubert Reeves, vous avez un sens aigu de la vulgarisation, dans le très bon sens du terme. J'ajoute que vous avez d'autres cordes à votre arc, la photographie, le dessin, la sculpture. Mais revenons à l'écriture. Vous venez de publier « Conversation avec un caribou », un livre paru aux éditions Les Presses Inverses, un roman où la philosophie tutoie l'absurde, où l'humour fait bon ménage avec le meurtre, où les certitudes finissent presque toutes par s'écrouler. Comment est-ce que l'idée de ce roman a germé dans votre esprit ?
Alors c'est intéressant que vous ayez mentionné Hubert Reeves et la vulgarisation scientifique, parce que le genre littéraire de ce roman que je propose est quelque chose que j'aime appeler la philosophie fiction, où la philosophie est à la philosophie fiction ce que la science est à la science-fiction. Alors on connaît bien la science-fiction, qui est souvent d'ailleurs une excellente manière de vulgariser des théories philosophiques, que ce soit film ou roman. Eh bien, pour moi, il ne s'agit pas de science-fiction, mais de philosophie-fiction, parce que ce qui est à l'origine de l'inspiration de la structure du roman et de l'intrigue principale du roman est une théorie philosophique. Et cette théorie philosophique est une théorie que j'ai côtoyée pendant de longues années, puisque je l'ai traitée déjà dans ma thèse de doctorat et puis dans mes travaux de recherche qui ont suivi les années après. Et donc j'ai eu envie de me saisir du contenu de cette théorie philosophique et d'en faire quelque chose qui serait passionnant, qui serait excitant, qui serait une intrigue et qui ne serait pas une explication ou une pédagogie de la philosophie, mais qui serait vraiment une histoire, une narration, un récit. Et c'est la première fois pour moi, puisque dans le passé, j'ai publié, écrit des livres académiques ou des livres de vulgarisation scientifique, vulgarisation de la philosophie, mais là, c'est la première fois qu'il s'agit vraiment de fiction. Et donc, c'est un grand pas pour moi, un grand pas dans l'inconnu et auquel j'ai pris énormément de plaisir. Cette théorie de laquelle je parle, c'est une théorie qui porte un nom et qui peut vite, disons, emmener très loin. On l'appelle la théorie des mondes possibles. C'est une théorie qui est très technique et très sérieuse au sein de la philosophie et qui souhaite répondre à la question de ce que cela veut dire que quelque chose est possible. Parce qu'on comprend très bien ce que cela veut dire que quelque chose est le cas. Par exemple, actuellement, là où je suis, il ne pleut pas, il fait beau. Et
c'est nous aussi.
Je dis, voilà, je suis en montagne, mais je pense qu'en ce moment, il fait beau partout, même un peu trop, vu les chaleurs. Et donc, je peux dire, il fait beau, tout simplement parce que la météo est actuellement de telle ou telle façon. Mais si je dis la phrase, il est possible qu'il soit en train de pleuvoir maintenant, qu'est-ce qui rend vrai cette phrase ? Ce n'est pas quelque chose que je peux trouver là dans le monde, puisque précisément, il ne pleut pas. Et donc, où est-ce que je peux trouver ce que les philosophes appellent un vérifacteur, c'est-à-dire la chose qui rend vrai une phrase ? Eh bien, une façon de répondre est que l'on peut aller chercher cette chose dans ce qu'on appelle les mondes possibles. Alors, très peu de philosophes dans l'histoire de la philosophie et aujourd'hui accepteraient l'idée qu'il s'agit réellement de mondes, d'univers concrets comme celui que nous habitons. Mais il y a une petite minorité de philosophes, et en particulier un philosophe américain au XXe siècle qui s'appelle David Lewis, qui a pris cette idée très au sérieux et qui l'a défendue de manière vraiment très sérieuse. Alors je me suis dit, quelle idée magnifique à explorer dans un roman, dans une intrigue. Et évidemment, dans le roman, je me permets un peu des largesses avec cette théorie et je me permets des choses qui ne seraient pas acceptées, disons, sur le plan scientifique ou philosophique, pour le bien de l'intrigue et pour le dénouement final, etc. Mais je ne veux pas trop en dire. Pour ne pas divulgacher trop le contenu du roman et puis surtout la fin, pour, au cas où il y a des personnes qui aimeraient
le lire. Surtout pas. Ouais, bien sûr. Bah, attendez, c'est un peu le but, là. On va pas divulgacher, comme il est de coutume de dire maintenant, absolument. Mais c'est vrai que ce questionnement sur nos certitudes, qui est sous-jacent en permanence dans le livre, c'est un questionnement assez passionnant sur ce principe de réalité qui parfois nous empêche de voir, allez savoir, hein, c'est pas moi qui donnerai la réponse, peut-être vous un peu plus, bien que on reste dans ce doute, hein, philosophique, de voir de l'autre côté des murs finalement cette réalité alternative ou pas, on peut les mettre au pluriel. Et puis vous venez de dire, vous êtes à la montagne actuellement, Jiří Benovský, je vais en parler tout de suite de la montagne, parce que c'est presque un personnage du roman, la montagne. Une grande partie de l'intrigue s'y déroule, sous la montagne aussi, mais enfin, la montagne est très présente. C'est presque, oui, un personnage du roman, et j'ai pensé à vous tout à l'heure en regardant le fil des news, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout récemment, là, deux alpinistes viennent de se tuer sur le Cervin, Zermatt. Ils ont décroché apparemment d'une...
J'ai vu la triste nouvelle juste il y a une demi-heure. Ouais.
Et je me demande, je pense que ça vous touche à double titre, parce que la montagne, vous l'aimez énormément, vous en faites, vous êtes un alpiniste aussi, vous faites de l'escalade, vous faites de magnifiques photographies de montagne, c'est un sujet que vous aimez prendre dans votre objectif. Vous l'avez également beaucoup développé avec la plume, là, dans votre roman. La montagne est dangereuse, hein, parce que dans le livre, vous en parlez à plusieurs endroits, à différents passages. Cette montagne peut être une meurtrière. Il faut être extrêmement prudent. Elle fait souffrir les corps aussi, le corps. Hein. Ça vous a touché, je pense, d'une manière, parce que je crois savoir que votre éditeur, celui en tout cas par qui le projet est passé à un moment ou a démarré, s'est tué en montagne et qu'il n'a pas vu la sortie du bouquin, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, lorsque j'ai contacté les presses inverses en leur envoyant le manuscrit, j'ai eu le bonheur de rencontrer Alexandre Metzener, qui était l'éditeur, un des deux éditeurs des presses inverses, et avec qui nous avons eu en particulier une, bien sûr plusieurs, mais en particulier une très longue conversation, bien sûr sur le manuscrit et sur le travail d'édition, mais également sur la montagne, parce qu'il se trouve que Alexandre était également alpiniste de très bon niveau et qu'il aimait vraiment la montagne, et il aimait en particulier quelque chose qu'on appelle les courses d'arête, c'est-à-dire un itinéraire de montagne qui progresse en grande partie sur une arête effilée où on a le vide, on va dire, des deux côtés, et où, bah, bien sûr, il s'agit d'être vigilant, de ne pas faire d'erreur. Et les courses d'arête, c'est un type de course vraiment typique pour les alpinistes, et on y recherche cette esthétique du vide, cette esthétique de l'évolution sur le fil. Et ce n'est pas seulement une métaphore, hein. On évolue sur le fil de la vie, puisque la mort est à gauche à un pas, la mort est à droite à un pas, mais on évolue vraiment sur le fil littéralement, puisque certaines arêtes peuvent être vraiment très fines. Et nous avons très longuement parlé avec Alexandre de ce type de course-là, puisqu'il en était passionné tout comme je le suis, et nous avions notamment évoqué des questions qui se sont retrouvées aussi dans mon roman, des questions concernant l'encore on peut peut-être en parler après. À peine deux ou trois semaines après cette conversation, Alexandre s'est retrouvé sur une arête où les choses ne se sont pas bien passées et il n'est plus revenu parmi nous. Et c'était un moment d'une tristesse effroyable pour tous ses proches, évidemment, et bien sûr pour la maison d'édition aussi. Ceci dit, le travail sur le roman a continué et le roman est paru un certain nombre de mois plus tard. C'est pour cela aussi qu'on dédicace de ce roman au début du livre. Je rends hommage à Alexandre parce qu'il était bien sûr le moteur de la publication du roman, mais il était aussi un humain que j'ai connu, on va dire, peu de temps, puisque nous avons tout juste commencé le travail sur le roman, mais en très peu de temps, et j'ai envie de dire même déjà au bout de 5 minutes après l'avoir rencontré, nous avons créé une véritable connexion. Mmh. Pour moi, c'est vraiment un ami qui est parti, et en plus, il est parti d'une manière qui ressemble énormément à une des scènes du roman que j'avais écrite avant de le connaître. Donc, il y a une sorte de mélange dans ma tête qui est vraiment étrange encore aujourd'hui. J'en parle maintenant avec du temps qui a passé, mais c'est toujours quelque chose d'aussi...
beaucoup d'émotions. On va pas du tout entrer dans le détail de l'intrigue, parce qu'on rappelle quand même que c'est un polar et qu'il y a du suspense. Mais en effet, vous écrivez, ça rejoint ce que vous dites à l'instant, quand on parle de montagne, vous dites c'est la raison pour laquelle il arrive que deux alpinistes évoluant sur ce type de terrain ne s'encordent pas. Ils affirment par là l'autonomie et la responsabilité de chacun. Je ne t'aiderai pas, tu ne m'aideras pas et tu ne m'entraîneras pas dans ta chute. La solidarité n'est pas de mise lorsque le danger de mort guette.
Oui.
C'est étrange, parce que pour la montagne, c'est très vrai. Moi, je pensais à la guerre. Là, on est tellement entouré de nouvelles dans ce sens-là. Et je me demandais si cette solidarité n'est pas de mise lorsque le danger de mort guette. On l'appliquait à d'autres univers. Ou si là, on est vraiment dans quelque chose qui est très lié à l'alpinisme, dans cette... s'encorder ensemble et... Oui. Ça m'a fait cogiter à d'autres choses, à d'autres univers possibles. Mais,
tout à fait. Alors, le passage que vous avez cité, juste pour le mettre un petit peu dans le contexte et sans dévoiler trop de l'intrigue du roman, est dans la bouche d'un personnage qui a un peu un intérêt particulier, on va dire, à dire ce genre de choses.
Absolument.
Je ne vais pas en dire plus maintenant. Dans la réalité, il est vrai que sur ce type de terrain et sur ce type d'arête, on aurait, j'ai envie de dire, mathématiquement, souvent intérêt à ne pas s'encorder, puisque si l'un des deux chute, la probabilité est immense d'entraîner l'autre dans sa chute, et donc on va avoir deux morts au lieu de un. Vous vous rappellerez peut-être les conditions du décès de Erhard Loretan, le très célèbre alpiniste suisse.
Absolument.
Où les choses se sont produites exactement de cette manière.
C'est juste.
Ceci dit, la plupart du temps, et j'ai presque envie de dire presque toujours, les alpinistes s'encordent. Et c'est là qu'on rejoint cette idée de solidarité qui est pratiquement irrationnelle, puisque rationnellement, il serait plus avantageux et plus logique de ne pas s'encorder. Mais la plupart des alpinistes choisissent de s'encorder. Malgré tout, choisissent d'unir l'issue de leur course, l'issue de leur vie parfois, et ça fait partie de l'esprit de l'alpinisme. Bien sûr, il y a des exceptions, pas tout le monde fait ceci, et bien sûr, il y a aussi des ascensions en solo, où on est tout seul, on n'est pas encordé du tout, etc., etc. Donc, il y a tout un tas d'autres manières de pratiquer la montagne, mais la manière, j'ai envie de dire, la plus représentative, et celle qu'on voit le plus souvent, est précisément celle de s'encorder et de dépendre de l'un de l'autre. Et on le fait autant dans l'esprit que peut-être l'autre pourrait me sauver, me retenir si je dévisse, c'est-à-dire si je glisse ou que je tombe, mais on le fait aussi en se disant « je suis là pour l'autre si il dévisse, s'il tombe ». Et même dans les conditions où la probabilité finalement de pouvoir l'aider ou de pouvoir être aidé n'est pas très haute, eh bien on le fait en général quand même.
C'est passionnant, hein, pour celles et ceux qui ont une relation, ou pas forcément intime d'ailleurs, avec la montagne, avec l'alpinisme. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans le roman qui nous y ramènent, ou nous y amènent tout court. Peut-être juste pour finir sur la montagne, vous rappelez aussi autre chose, c'est que ce corps, il souffre en montagne. Vous écrivez, c'est au début du livre, à 4000 mètres d'altitude, les alpinistes disposent seulement de la moitié d'oxygène par rapport aux conditions habituelles dans les villes et les vallées, le corps souffre. Et c'est vrai que cette sorte de semi-asphyxie, comme vous la permanente, hein, comme vous la qualifiez, n'aide pas par moment à être peut-être en pleine lucidité. Ça, vous l'alpiniste, vous le savez sans doute mieux que moi, ça rejoint cette idée d'encordement ou pas, c'est-à-dire qu'on est dans un état aussi où on n'est pas peut-être au sommet de la maîtrise de son corps.
Oui, absolument.
À cette altitude-là.
Alors, la montagne, et quand on parle de montagne, ici, on parle de haute montagne, hein, on parle de hautes altitudes, donc au-delà de 4000 mètres dans les Alpes, et puis bien sûr encore plus haut ailleurs. Cette montagne-là est un milieu naturel dans lequel l'Homo sapiens n'a pas sa place. Il ne peut pas y vivre, il n'est pas fait pour y vivre, et à certaines altitudes, le simple fait d'y rester, même assis dans un canapé à haute altitude, on finit par mourir. Ouais. L'altitude est quelque chose qui n'est pas fait pour nous, ou plutôt nous ne sommes pas faits pour l'altitude. Et donc, se rendre en haute montagne, et en général, c'est pas pour s'y asseoir dans un canapé, c'est pour faire un exercice physique important, eh bien, c'est se plonger dans un environnement hostile, par sa nature, et le simple fait d'être là est déjà une contrainte, et c'est déjà une souffrance du corps. Et c'est cela qu'on va y chercher, je pense, en partie. Mmh. On ne va pas en montagne que pour cette raison-là, bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Mais en partie, on a envie d'aller vraiment très loin dans cette expression qu'on dit souvent « sortir de sa zone de confort ». Alors là, pour le coup, on sort vraiment non seulement de la zone de confort, mais de la zone même de la vie, hein, puisque à l'Everest, d'ailleurs, il y a une zone au-delà de, je ne sais plus exactement quelle altitude, qu'on appelle la zone de la mort, parce que précisément, si on y reste un certain nombre d'heures, on finit par mourir quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs un des thèmes principaux du roman, on n'a pas vraiment abordé, mais un des thèmes principaux, c'est notre relation à notre finitude et à notre mort.
J'allais vous en parler, parce que la mort, elle est non seulement très présente, c'est un polar, je rappelle, dès la première page, ou presque, dès la seconde, mais elle est là aussi en filigrane. Il y a beaucoup de réflexions passionnantes sur la mort et sur cette conscience de la finitude. Il y a d'ailleurs un des personnages principaux, c'est Stéphanie, qui dit en proportion, enfin vous écrivez plus exactement, en proportion de son émerveillement face à l'existence de choses vivantes, Stéphanie commence ainsi à découvrir petit à petit qu'elle déteste les voir disparaître. Elle ne comprend pas comment l'univers, encore une majuscule, autorise qu'il suffise d'une semelle de chaussure pour démolir la vie d'une chose aussi prodigieuse qu'une chenille velue. Cette finitude, elle la refuse, elle ne veut pas la voir. Elle se promet d'en découvrir le remède lorsqu'elle sera grande, adulte, scientifique. Ne pas supporter la finitude.
C'est la Stéphanie,
c'est une des héroïnes. Alors, c'est un des personnages très importants du roman.
Et là, elle parle en tant que petite fille, au moment où elle...
À ce moment-là, c'est une petite fille, c'est juste, oui.
Voilà. Mais cette découverte à 8 ou 9 ans va marquer toute sa vie, va marquer le choix de sa profession, ça on peut le dire puisqu'on le sait dès le début du roman, ça ne dévoilera pas trop d'intrigue, elle devient médecin légiste, elle choisit une profession où elle côtoie la mort au quotidien, parce que, donc encore une fois, sans vouloir trop dévoiler, mais parce que le fait de la côtoyer de près et le fait de travailler avec la mort lui permet de moins la craindre et d'en avoir moins peur. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais on peut quand même dire ça pour un petit peu...
Non, c'est bien, c'est bien.
Vous êtes contour de...
Vous êtes dans la retenue. Alors, on n'aura pas le temps, hein, évidemment, malheureusement, Géry Benofsky, de tout aborder. On sera encore là demain avec votre livre et avec surtout vos passions, notamment la philosophie, la photographie, la sculpture, le dessin aussi. Hein. Ça vaut la peine de tapoter Géry Benofsky dans un moteur de recherche et on trouvera votre site qui est bien fait. Vous avez beaucoup de facettes à explorer pour nous, en tout cas très intéressante, la mort bien sûr, et puis une autre notion essentielle non seulement dans le livre, mais je pense dans la philosophie et dans cette émission, c'est la solitude. La solitude, elle est très présente dans le livre. Et j'ai envie, je pense que vous parlez de vous quand même beaucoup dans ce roman. Alors dites-moi si je dis une ânerie, j'ai juste envie de lire ces deux lignes très court, très brièvement. C'est l'un des personnages, un autre personnage très important du livre qui s'exprime. Il dit « La solitude m'habille, la solitude m'habite. La honte est cumulative chaque jour, chaque récréation devient plus pesante à porter. Mon sac à dos d'école s'alourdit au point que je n'arrive presque plus à le soulever. » La solitude m'habille, la solitude m'habite.
Oui, tout à fait. Alors, je suis. Donc, effectivement, la solitude, c'est peut-être le thème principal du roman. Mm-hmm. On a parlé de l'inspiration de théories philosophiques, on a parlé de notre rapport à la finitude, à la mort. Mais la solitude, c'est peut-être le thème véritablement central du roman. Et je suis frappé par des situations que j'ai pu voir, constater, vivre, d'une solitude extrême que l'on peut ressentir en étant véritablement entouré de gens. C'est quelque chose dont on a déjà souvent entendu parler, mais qui reste toujours très fort pour moi. Et donc, le passage que vous avez cité là, c'est un des personnages ici aussi, lorsqu'il était enfant, adolescent, et lorsqu'il se sent très seul à l'école, en ayant beaucoup de difficultés à créer des connexions sociales avec, avec ses camarades. Et dans le roman, cette difficulté qu'il a est poussée assez loin et il en souffre vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Il y a là quelques éléments que j'ai pu voir. J'ai notamment un camarade de classe que j'ai en tête et qui, par exemple, pendant les récréations, allait vraiment se cacher. Il se cachait aux toilettes ou à différents endroits parce qu'il ne supportait pas d'être seul et de n'avoir personne à qui parler pendant les récréations. C'est quelque chose qui m'a énormément touché lorsque j'avais 14-15 ans et lorsque j'ai pu assister à cela. Et je voulais parler de ce type de choses-là aussi dans le roman.
Il y a d'autres
formes de solitude aussi. Hein. Ça
bien
fait
sûr.
Peut-être un peu long maintenant de commencer à faire une liste, mais cet épisode-là que vous avez cité est un épisode qui m'avait énormément ému à l'époque et qui m'a accompagné un peu. Bien entendu, dans ma propre vie, bien des fois, je me suis aussi senti seul tout en étant entouré de plein de gens à différents moments et différentes manières. Et c'est quelque chose de quoi j'avais vraiment envie de parler.
Ouais, les autres, vous en parlez beaucoup. Il y a une quantité de pistes dans votre roman qui rejoignent des thèmes, des sujets que nous abordons régulièrement dans les lignes de cœur. Ça m'a beaucoup frappé. Je pense que c'est un livre qui devrait intéresser les fidèles de l'émission. Pas que, hein, mais entre autres. Alors, vous savez quoi? Je vais énumérer ce dont on n'a pas le temps de parler parce que là, il nous reste vraiment 2 minutes et on n'en parlera malheureusement pas ce soir, peut-être une prochaine fois. C'est l'ennui, c'est nos désirs, nos peurs dont nous sommes si souvent otages. Le temps, le rapport au temps, sa perception, très important ça aussi dans le livre. Les autres, là vous venez d'en parler d'une certaine manière, les relations familiales aussi. On aurait pu évoquer votre bande dessinée, on aurait pu évoquer d'autres livres que vous avez écrits, notamment L'esprit de ma cafetière ou Comment tout dans l'univers possède une forme de mentalité. C'est passionnant ça aussi, mais on pourrait faire 4 heures avec vous, Jerry Benofsky, et on ne peut pas les faire
avec
malheureusement.
Plaisir.
Je vais terminer avec une seule question. Je précise tout de même, hein, juste avant la dernière question, que le titre de votre livre, il faut attendre la page 356, c'est-à-dire presque la toute dernière, pour comprendre pourquoi ce livre s'intitule « Conversation avec un caribou, je n'en dirai pas plus ». Ma dernière question.
Oui, et moi non plus.
Non, mais surtout pas. Surtout pas. La philosophie. La philosophie... c'est quand même un sacerdoce, une passion, je dirais une vocation, sans utiliser de grands mots, parce que finalement, alors vous, vous vous en sortez formidablement bien, vous enseignez, vous publiez, mais quels sont les débouchés quand on décide de se lancer dans des études de philosophie? Il n'y en a pas tant que ça, hein.
Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler des débouchés directs et des débouchés indirects. Les débouchés indirects sont beaucoup plus nombreux. Le débouché direct, ça va être soit de faire une carrière académique, ce qui est extrêmement exigeant, difficile, frustrant, etc. Et le roman parle aussi de ça, d'ailleurs.
C'est pour ça que je vous pose la question.
ou de l'enseignement, donc enseignement au niveau du secondaire post-obligatoire, où on peut enseigner la philosophie. Ça serait un petit peu les débouchés directs. Et puis après, il y a beaucoup de débouchés indirects. On le dit souvent, donc ça semble être un cliché, mais en fait, ce n'est pas un cliché, c'est tout à fait la vérité. Lorsqu'on apprend à philosopher, on apprend à penser. Et lorsqu'on apprend à penser, on peut ensuite être utile dans énormément d'autres métiers et de domaines. Et je ne vais pas commencer à les lister maintenant, on n'a pas le temps, et ce serait toute une autre discussion. Et donc, énormément de gens que je connais, de collègues, d'anciens collègues, ont fini finalement par faire autre chose que par faire soit une carrière académique, soit une carrière d'enseignant, et peuvent s'épanouir dans tout à fait autre chose. Ceci dit, sur le marché du travail, si vous allez à l'Office de l'emploi et vous dites « Bonjour, je suis un spécialiste en métaphysique et dans les modalités à l'éthique », les choses ne sont pas forcément très simples.
Oui. Enfin, c'est un domaine que je connais un tout petit peu, ça m'amuse beaucoup. Et en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, Jiří Benovský.
C'est moi qui vous remercie.
D'être venu. Je rappelle que votre livre « Conversation avec un caribou » vient de paraître aux éditions Les Presses Inverses. Je vous souhaite une très belle nuit en altitude, hein, si j'ai bien compris, c'est ça ?
Presque 2000 mètres, donc je profite de la fraîcheur.
Ah, quelle chance vous avez. Merci à vous.
Je vous remercie aussi infiniment.
De vous recevoir une autre fois, peut-être. Belle nuit.
Avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Bonne nuit et bonne suite d'émission.
Merci.